Bonjour, chers auditeurs de Radio Canciel, dans notre émission consacrée à l'art et à la foi, nous allons parler de l'histoire et aujourd'hui nous avons un hôte qui va nous parler des Templiers dans l'ancien diocèse de Chartres. J'ai le très grand plaisir de saluer la présence dans le studio de Monsieur l'abbé Philippe Ferré, directeur de la bibliothèque diocésaine de Chartres. Bienvenue, Monsieur l'abbé. Je vais peut-être vous proposer tout de suite de nous introduire dans le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les Templiers, qui est un ordre qui s'est répandu dans tout l'Occident et l'Orient au Moyen-Âge ?
Alors, j'ai envie de parler surtout des Templiers dans l'ancien diocèse de Chartres, c'est-à-dire qui était bien plus vaste que l'actuel diocèse.
Qui allait jusqu'à Vendôme.
Au-delà de la Loire. Et un peu au-delà de la Seine, du côté de Mantes, donc très vaste, ce qui va nous permettre d'englober deux commanderies templières de première importance. Les Templiers sont nés lors de la première croisade. Les croisés ont pris Jérusalem, contre toute attente, paraît-il. Mais ils ne sont pas restés. Et la plupart, après avoir pris Jérusalem, ils sont repartis. Alors que le pèlerinage en Terre Sainte allait pouvoir se développer, bon, il y avait déjà, au XIe siècle, des hospitaliers qui accueillaient les pèlerins. Et donc, avec le retour des croisés, un certain chevalier vont rester à Jérusalem et comme des auxiliaires de ceux qui tenaient, les hospitaliers, disons.
Qui s'occupaient des blessés, des pèlerins.
Qui s'occupaient des pèlerins malades, qui accueillaient les pèlerins, s'occupaient d'eux. Il semblait nécessaire qu'il y ait des gens armés pour assurer la sécurité. Ainsi va être fondée une petite communauté d'hommes qui vont s'établir à Jérusalem et s'appeler les pauvres chevaliers du Christ, donc dont la mission était d'assurer le service et la défense des pèlerins entre le lieu de débarquement et l'arrivée à Jérusalem. Là, ils ont été fondés en 1118 par Hugues de Pince et ses compagnons. Et le roi Baudouin les installera l'année suivante dans son palais sur l'esplanade du Temple, d'où leur dénomination de Templiers. Ils s'appelleront désormais donc les Chevaliers du Temple.
Et ils n'étaient que 9 compagnons.
Ils n'étaient que 9 au départ. Le pèlerinage n'accueillait pas des milliers, n'attirait pas des milliers de pèlerins, mais... Alors, comme leur mission au service des pèlerins de Terre Sainte a été très appréciée, les dons vont affluer, et en Europe occidentale, et particulièrement dans notre pays, il y a de très nombreuses donations qui vont leur être faites tout au long de ce XIIe siècle.
Surtout...
Ils vont avoir à gérer d'importantes exploitations agricoles, ce qui va être le cas chez nous, où ils vont faire preuve d'une grande compétence.
Donc l'ordre va se doter d'une règle propre.
L'ordre va se constituer progressivement, donc en ordre religieux, et d'un nouveau genre, parce que voilà des chevaliers qui sont des soldats, et qui vont être des moines.
Voilà la nouveauté.
Des moines qui sont des soldats. Et donc pendant 150 ans, ils vont assurer le transport des pèlerins de Terre Sainte, et ils seront aussi présents sur divers chemins de pèlerinage, à commencer par les chemins de Compostelle. Alors dans l'ancien diocèse de Chartres, dans le vaste, on l'appelait le grand diocèse, ils vont avoir des possessions dans les toutes premières années de leur fondation.
En première moitié du XIIe siècle, donc il va déjà acquérir une très grande importance ici.
Il est possible que Thibaud, qui était comte de Chartres et de Blois, et aussi comte de Champagne, c'était un grand seigneur, il est possible que ce Thibaud ait joué un grand rôle pour l'établissement des Templiers dans la région. D'ailleurs, son oncle, Hugues de Champagne, qui était neveu de Saint Bernard, était entré dans l'ordre du Temple vers 1125. Et il y a donc tout un ensemble de relations qui peut expliquer la présence des Templiers dès les
début
années
de sa 1125. Constitution.
Tout d'abord à Mondoubleau, ou tout près de Mondoubleau plus exactement. Le temple près de Mondoubleau est de nos jours paroisse et commune du temple, à quelques kilomètres de Mondoubleau. Donc une des toutes premières fondations de l'ordre en France, vers 1128. Et vers 1150, l'évêque de Chartres, Gosselin, confirmera la donation d'une église qui a été faite par son prédécesseur, Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres, et qui était son oncle. Et on sait que Geoffroy de Lèves, avant d'être évêque, avait fait le vœu de partir en croisade, ce qui explique qu'il a été un grand bienfaiteur de l'ordre du Temple.
Qu'est-ce qui reste donc de l'église du Temple de Mondoubleau ?
Alors, il reste l'église, mais et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre vestige que...
Dans chaque implantation des Templiers, il y a toujours un certain nombre de bâtiments.
C'est très variable.
Donc,
c'est
très mais ils variable. Avaient un clergé
avait,
bien à eux.
Il y avait des commanderies qui étaient au fond des grandes exploitations, mais...
Agricoles, exemptées de la dîme.
Et ça, ils avaient plein de facilités, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Mais on ne sait pas très bien, enfin, on ne peut pas dire que les commanderies sont toutes sur le même modèle. Donc il y a...
Très bien,
y a
en fonction de la grandes, région j'en parlerai, et de l'activité.
Il y a de grandes installations, et puis parfois on appelait aussi commanderies, semble-t-il, des tout petits établissements. Donc on n'est pas en mesure de dire combien y avait-il de commanderies. Le chiffre varie de 1000 à 10 000, allez donc savoir.
On va se mettre dans l'ambiance de la prise de Jérusalem avec un peu de musique. Continuez notre entretien sur, ou plutôt vous allez nous parler des autres implantations des Templiers dans l'ancien diocèse de Chartres.
Voilà, nous étions à Mondoubleau, et pas très loin, voici la commanderie d'Arville, qui sera fondée 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1130, grâce à une donation du vicomte Geoffroy III de Châteaudun, qui était seigneur de Mondoubleau. Et les deux maisons d'Arville et de Mondoubleau vont être en étroite dépendance ou interdépendance l'une de l'autre. Alors, les Templiers seront des gens très qualifiés qui vont faire d'Arville une exploitation agricole tout à fait remarquable, spécialisée aussi dans l'élevage des chevaux percherons qui seront expédiés en Terre Sainte. Et comme en Europe occidentale, la présence des Templiers est toujours aussi tournée vers le vers leur présence en Terre Sainte.
En Terre Sainte. Et le cheval, le percheron, effectivement, un animal de pas formidable.
Alors, la commanderie d'Arville est de nos jours encore un magnifique ensemble, bien conservé et bien mis en valeur dans un paysage paisible. C'est déjà un peu le Perche. Et le public y est très bien accueilli. Il y a des espaces pour pique-niquer et puis il y a des tas de choses à visiter.
Donc,
dans
une idée pour une belle
Arville.
Excursion.
C'est une belle excursion. Arville était pour les Templiers à la fois une place forte et une exploitation agricole et une paroisse dont ils étaient chargés. Alors la commanderie d'Arville, ça représente des bâtiments agricoles, ça représente des bâtiments conventuels pour les religieux et une église assez grande. Qui est un petit peu de côté, c'est-à-dire ouverte aussi sur l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur des murs, mais comme c'était une église en même temps paroissiale, elle est ouverte. Et cette église est restée intacte depuis le XIIe siècle. D'architecture très sobre, très, très dépouillée. Allez la visiter.
Est-ce qu'on peut dire en général qu'il y a très peu de fioritures dans l'architecture des Templiers ?
Le plus souvent. Mais il n'y a pas, enfin les historiens nous disent, il n'y a pas une architecture spécifique templière. Hein. Mais les églises templières se ressemblent toutes un peu, c'est-à-dire une église à une seule nef, sans fioritures, dépouillée. Les Templiers sont assez proches des cisterciens à bien des égards.
Et en plus, alors, c'est Saint-Bernard qui avait
a fait l'éloge
de l'ordre.
Chevalerie, oui. Dans un ouvrage très, très important où il invitait surtout les Templiers à la conversion, à être de bons religieux. Alors, quand les Templiers ont été supprimés au début du XIVe siècle, la commanderie a échu à un autre ordre, l'ordre des hospitaliers, alors là avec un H, enfin, l'ordre de l'hôpital, et au cours des siècles, les bâtiments ont subi bien des remaniements. L'actuel corps de ferme date des 15e, 16e siècles, mais les bâtiments sont sur les fondations défensives construites au 12e siècle par les Templiers. Et il y a une belle porte d'origine, enfin la porte principale, en grison, comme le portail de l'église, mais de plus grande dimension et qui sera flanqué de deux élégantes tourelles ajoutées plus tard par les hospitaliers au XVe ou XVIe siècle. Et c'est un très bel ensemble. Et comme bien d'autres commanderies, Arville est située sur un des nombreux chemins empruntés par les pèlerins de Compostelle.
Donc dès la première moitié du XIIe, deuxième moitié du XIIe, on a effectivement ce développement aussi du chemin de Compostelle.
Tout à fait.
Des pèlerins qui vont être abrités dans ces commanderies également. Je crois que vous voulez nous parler aussi de Châteaudun.
Alors, à Châteaudun, où les Templiers avaient reçu à la fin du XIIe siècle, en 1181, le don d'une maison et d'une vigne. Une dizaine d'années plus tard, le comte de Blois leur donnera le moulin de la Boissière sur un terrain marécageux qui produisait du fourrage bien meilleur que ce qu'on pouvait trouver dans les zones forestières.
Oui, parce que
ça intéressait beaucoup les Templiers d'avoir du bon fourrage pour les chevaux, notamment. Et la chapelle du XIIIe siècle existe encore, rue des Fouleries, c'est-à-dire au bord de la falaise à Châteaudun, sur les bords du Loir. Que dire d'autre? On va remonter.
Très bien.
On va aller à Sours.
Ah, il y avait très important.
Il y avait une commanderie à Sours, oui, à une dizaine de kilomètres de Chartres.
Là, par contre, ils ont dû commencer par défricher, sans doute, la terre aussi, qui n'a pas été rendue...
À Sours, ils n'ont pas eu à défricher, ils ont reçu une donation ou clé en main. Là, tout était prêt. C'était une exploitation agricole déjà mise en valeur qui leur a été offerte dans l'excellente terre de Beauce. Et Dieu sait que la terre de la région de Sours est tout à fait intéressante, très riche. Alors, importante donation faite aux Templiers par la comtesse de Blois, Alix, qui était fille du roi de France Louis le Jeune, qui sera le roi Louis VII, et d'Aliénor d'Aquitaine, qui répudiait, épousera ensuite Henri Plantagenet, comte d'Anjou et futur roi d'Angleterre.
Et source des guerres. Alors, qui là, vont s'en suivre. On était dans des beaux draps.
On était dans de beaux draps. Ça a été un vrai désastre. Et donc elle avait épousé le comte de Blois, qui fut un grand bienfaiteur des Templiers, dont il appréciait le rôle lors des croisades. Et Thibault périt en croisade, et sa veuve et ses enfants donnèrent aux Templiers le domaine de Sours, avec des terres exploitées en de nombreuses paroisses. Ce n'était pas d'un seul tenant. Et on a dans tous les alentours de Chartres des traces encore de
ces donations,
de terres exploitées par les Templiers. D'ailleurs, sur la Nationale 10 au sud de Chartres, en direction de Vendôme, il y a
comme un lieu
qui s'appelle
oui,
le Temple.
De voir l'importance des comtes de Chartres le développement et la richesse de l'ordre.
Oui, c'était des seigneurs tout à fait importants. Et le roi Philippe Auguste approuvera par un acte signé en 1193, donc à la fin du XIIe siècle, la donation faite par sa sœur Alix.
Oui, c'était important parce que parfois des donations pouvaient être faites, être source de litiges à l'intérieur des familles.
Il y a eu quantité de litiges à propos des donations, soit de la part de la famille, soit de la part des seigneurs locaux. On avait beaucoup recours à l'évêque. Donc quand une donation là, importante était confirmée par le roi, ça arrangeait les choses. Alors, la maison de Sous était fortifiée. On peut en voir encore des vestiges qui sont intégrés dans une importante exploitation agricole en plein centre du bourg. Et c'était donc, je vous l'ai dit, déjà une importante exploitation agricole au XIIe siècle. Et sur la place principale de Sous, vous voyez ce qui reste du portail d'entrée.
Monsieur l'abbé Philippe Ferré est en train de nous parler des implantations des Templiers au XIIe siècle dans l'ancien diocèse de Chartres, et nous étions à Sours. Et je crois que vous vouliez peut-être nous parler du domaine de Bonville.
Oui, alors donc sur la commanderie de Sours, il y a eu notamment une importante autre donation. C'est le domaine de Bonville, qui est pas loin de Sours d'ailleurs, et qui s'appellera la Grange de Bonville. Ce qu'on appelle grange, c'est toute une exploitation, non seulement un ensemble de bâtiments, mais un ensemble de terres cultivées. Et vers la fin du XIVe siècle, la Grange de Bonville avait 300 arpents de terre labourable, c'est-à-dire au moins 120 hectares, ce qui à l'époque était considérable. Et la ferme de Sourd avait aussi environ 120 hectares. Oui, c'était des propriétés énormes.
Très vaste exploitation, oui. Donc il devait y avoir des paysans qui travaillaient pour eux, qui labouraient,
et il y avait plein de monde. C'était une source d'emploi, la présence des Templiers. Donc je vous ai dit que on a par exemple le temple de la Bourdinière sur la paroisse de Saint-Loup et bien d'autres lieux marqués par la présence des Templiers. Et jusqu'au milieu du siècle dernier, il y avait de nombreux troupeaux de moutons en Beauce et particulièrement dans la région de Sourd. Et la laine des moutons de Sourd et d'Arville alimentait les ateliers textiles de Châteaudun et de Montdoubleau. Donc là, il y avait une production lainière tout à fait importante.
Et forcément, on utilisait aussi les peaux des bêtes pour les parchemins.
Absolument.
Donc il y avait une forte activité aussi liée à ces besoins-là. Alors, au pays de Rouet, peut-être.
Alors,
vous,
on peut remonter plus au nord.
Ces établissements.
Il y a eu un établissement templier qui s'appelait la Ville-Dieu en Dreugezin. La Ville-Dieu, c'est un nom courant, au fond. Maison de Dieu, ville de Dieu. Et donc, sur la paroisse de Lon, et une présence attestée dès la fin du XIIe siècle. Et les seigneurs de Châteauneuf ont été particulièrement favorables aux Templiers, avec bien d'autres donateurs de terres ou de droits féodaux, mais là je vous parle d'un établissement dont il ne reste aucune trace. Il y a eu on peut compter de nombreuses donations qui ont été faites, donc dans le nord de l'actuel département d'Eure-et-Loire, aux alentours de Brezolles et de La Ferté, comme sur la paroisse de La Saucelle, où une grange, dite grange d'Olivet, est indiquée sur la carte de Cassini comme commanderie, ce qui est sûrement très excessif. Et l'église de La Saucelle date de la deuxième moitié du XIIe siècle et présente des points communs avec l'église d'Arville. On pourrait aussi mentionner, par exemple, la grange de Chanceroux sur le canton d'Auneau. Et dans le canton d'Annette, il y a un petit village qui s'appelle Champagne, où cette fois, ce sera le siège d'une des premières fondations des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. On a une attestation par les droits que leur accordait Simon de Montfort pour ramasser du bois mort dans la forêt des Yvelines. Il y avait aussi une Ville-Dieu des hospitaliers à Manou, en sens que, si je parle des hospitaliers, c'est pour souligner qu'il n'y avait pas seulement les Templiers, il y avait aussi donc les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui avaient au fond une mission tout à fait comparable à celle des Templiers. En général, ils s'entendaient fort bien. Alors, il faudrait peut-être aussi qu'on dise quelques mots sur Chartres.
Ah, très volontiers. Je pense que ça serait une obligation.
Alors, selon l'abbé Mété, sur les travaux, je m'appuie sur ses travaux, ce serait d'abord les hospitaliers qui se sont établis à Chartres au milieu du XIIe siècle. Et ils ont eu leur maison dans ce qu'on appelait alors le Muret, près de l'enclos, où fut plus tard le couvent des Jacobins, qui est aujourd'hui la maison mère des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Et les Templiers s'installèrent tout à côté des hospitaliers dans ce quartier du Muret, à l'endroit précis où est maintenant l'ancienne chapelle des Carmélites, vous savez, cet immense, ce très haut bâtiment bien visible dans le vieux Chartres et qui est actuellement dans l'enceinte du tribunal de grande instance. Cette maison était appelée la maison de Beauvoir. Distingue des maisons des grands et petits Beauvais qui, elles, appartenaient au chapitre cathédral. Beauvoir, Beauvais, ce sont des mots qui ont la même racine, le même sens, qui signifie belle vue. C'est vrai qu'il y a une vue sur la vallée ou sur l'actuel jardin Saint-Jean.
Il y avait des clos de vignes, des exploitations, des couvents. Effectivement, tout était très paysager autour.
La maison des Templiers était proche de la porte Saint-Jean, qui dominait ce qui était alors la vallée du Couesnon, remplacée maintenant par la ligne de chemin de fer Chartres-Paris. Et en contrebas existe toujours le clos Saint-Jean, aujourd'hui parc André Gagnon, où se trouvait en ce temps-là l'abbaye Saint-Jean-en-Vallée, qui était depuis l'évêque Yves de Chartres, une communauté de chanoines réguliers. Donc là, il y avait tout un monde religieux dans la vieille ville là-haut et dans la vallée. Tout cela pour dire donc que le quartier du Muret, au nord de la cathédrale, est très évocateur de l'histoire de Chartres depuis le Moyen-Âge, et c'était au XIIe siècle un quartier tout neuf. Alors, Templiers et Hospitaliers avaient d'autres maisons dans le diocèse, et ils délaissèrent assez vite leur maison de Chartres, et il ne restait plus grand-chose sur le terrain dont les Carmélites firent l'acquisition en 1658 pour y construire leur monastère, qui est aujourd'hui maison d'arrêt.
Donc là, on pourrait trouver, en creusant peut-être, il reste des fondations de ces anciennes installations. En tous les cas, ça doit être un terrain riche en vestiges archéologiques.
Oui, il y avait dans le même quartier le monastère des Visitandines, entre la rue du Cheval Blanc et la rue du Petit Beauvais.
Alors, quand on vous écoute, on a l'impression, au XIIe siècle, Chartres n'est qu'un très grand couvent, en tous les cas, une ville qui ne vit qu'à travers la vie monacale. C'est un peu cela. Il y avait des églises, des couvents.
Il y avait 7 ou 8 églises paroissiales dans la ville intramuros, sans compter donc les.
Très important
les
de le rappeler, car à la Révolution, on va perdre quelques églises qui seront détruites, et ça me donne l'occasion de parler des vitraux de la Renaissance chartraine qui sont exposés actuellement au Centre international du vitrail, des vitraux qui étaient installés dans ces anciennes églises paroissiales. Je crois qu'on est presque arrivé déjà à la fin, monsieur l'abbé Ferré, mais je crois que nous allons avoir l'occasion de refaire une autre émission pour continuer notre survol de la vie des Templiers dans l'ancien diocèse de Chartres. Donc pour aujourd'hui, je vous remercie parce que nous avons appris qu'il y avait une très forte implantation des Templiers dès la première moitié.
Ils étaient très présents dans le diocèse.
Du XIIe siècle et nous allons compléter effectivement cette connaissance que vous nous avez donnée par un complément dans une deuxième émission, et je vous donne rendez-vous donc à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir, chers auditeurs. Au revoir.
Oh.